Marie a vécu le premier avant. L'Église qui suit Jésus, qui suit aussi Marie, puisqu'elle est mère de l'Église, doit connaître, elle aussi, un avant particulier, d'une certaine manière, durant tout son pèlerinage, qui est l'avant de l'attente de la deuxième venue de Jésus. Donc, la venue de Jésus dans la gloire, le retour glorieux de Jésus à la fin des temps. Le pèlerinage de l'Église sur terre n'est pas éternel. Il se terminera, ce pèlerinage sur terre se terminera par le retour de Jésus dans la gloire, qui marquera aussi la fin du pèlerinage de l'humanité sur terre. Nul ne sait quand est-ce qu'aura lieu ce retour, Jésus le dit. Mais en même temps, Jésus nous dit qu'il y aura des signes qui annonceront la proximité de ce retour, comme les bourgeons annoncent le printemps. Et donc, à la fois, il faut voir toute la différence entre le premier avant de Marie et le dernier avant de l'Église, mais en même temps, les deux sont liés. C'est-à-dire l'avant de Marie, puisque l'Église est toute relative à Marie, comme l'Église est toute relative à Jésus et par Jésus à Marie, eh bien, l'avant de Marie doit éclairer l'attente de l'Église par rapport au retour de Jésus. C'est très important de souligner. Et quand on regarde donc le mystère de Marie, on est frappé sur le fait que, parce que Marie aussi a attendu le retour de Jésus. Alors vous allez me dire, oui, mais le retour de Jésus n'a pas eu lieu du temps de la vie de Marie sur terre. C'est pas pour ça que son attente n'avait pas une signification. Et comme chrétiens, nous devons attendre le retour de Jésus dans la gloire. Veillez, hein, ce que l'Église ne cesse de dire au terme de la liturgie, veillez. Donc d'être attentif à être prêt à recevoir Jésus qui revient. Et donc, si on regarde le mystère de Marie, puisqu'il doit éclairer l'avant d'Église, il est important de bien voir que Marie a comme deux secrets. Et le temps de l'avant, puisque Marie, dans ce temps d'avant, a à la fois attendu la première venue, mais aussi divinement dans son espérance, la venue de Jésus dans la gloire, et bien le temps de l'avant, c'est le temps où Marie a porté deux secrets. D'une part, le secret de la mère, puisque le temps de l'Avent était le temps où Marie a reçu le secret du Père qui est devenu son secret. Ça, c'est extraordinaire de voir que la foi de Marie a pénétré dans le mystère du Père de manière telle que tout ce que le Père vit, il donne à Marie à le vivre. Et c'est pour ça qu'on aura ça la nuit de Noël quand il est dit « Aujourd'hui, je t'ai engendré. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » C'est à la fois vrai du Père qui dit ça éternellement, et c'est à la fois vrai de Marie qui dit ça dans le temps. Et j'allais dire, c'est ensemble qu'ils le disent d'une certaine manière. Et Marie, donc, comme je l'ai souligné, a gardé ce temps de ce secret comme un grand secret pour elle, puisqu'elle était seule à vivre. Et c'est ce qui a permis à sa foi d'avoir cette qualité contemplative. Ça, c'est le secret de Marie comme mère. Vous avez un autre secret, qui est le secret de Marie comme reine. Et Marie reine, vous savez que dans l'Église, le mystère de la fête de Marie reine est assez récente. C'est peut-être un signe des temps. Et liturgiquement, c'est assez récent. Et Marie reine est celle qui a le plus attendu le retour du Christ. Et si on regarde l'Écriture, il y a dans l'Apocalypse un passage assez mystérieux par rapport au retour de Jésus dans la gloire et qui concerne directement Marie-Reine. C'est l'Apocalypse au chapitre 14, verset 14. Voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche, et sur la nuée était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, donc il est roi, et dans la main une faucille aiguisée. Puis un autre ange sortit du temple et cria d'une voix puissante à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faucille et moissonne, car c'est l'heure de moissonner, la moisson de la terre est mûre. » Littéralement, c'est un tout petit peu trop mûr. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du temple au ciel, tenant également une faucille aiguisée. Et un autre ange sortit de l'autel, l'ange préposé au feu, et cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille, « Jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange alors jeta sa faucille sur la terre, il en vendangea la vigne et versa le tout dans la cuve de la colère de Dieu, cuve immense. Puis on la foula hors de la ville, et il en coula du sang qui monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Dans l'écriture, l'ange est l'envoyé. Pas nécessairement des anges, ce sont tous des envoyés. C'est pour ça que vous avez, chez nos frères orthodoxes, cette icône de Jean-Baptiste, vous avez l'envoyé de Dieu, qui est représenté avec les ailes d'ange. C'est pas un ange, c'est un homme, il est envoyé de Dieu. Et donc, vous voyez que le mystère du retour de Jésus dans la gloire est symbolisé par la moisson et la vendange. Pourquoi? Parce que dans le retour de Jésus dans la gloire aura lieu à ce moment-là le jugement dernier. Et pourquoi est-ce que c'est symbolisé par la moisson, donc le pain, et la vendange, le vin? Parce que nous serons jugés, comme dit saint Jean de la Croix, nous serons jugés au terme de notre vie sur l'amour. Et l'amour a les deux dimensions. L'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain. L'amour à l'égard de Dieu, ça veut dire c'est nécessaire, et l'amour à l'égard du prochain, c'est la surabondance. C'est vrai, c'est nécessaire, c'est l'amour à l'égard de Dieu, mais Dieu veut que ça surabonde dans l'amour du prochain. Or, le pain, c'est la nourriture nécessaire. Quand un pauvre vous demande un morceau de pain, vous lui donnez un morceau de pain. Quand il vous demande un verre de vin, vous commencez par réfléchir. Aussi, déjà un peu. Bien rempli, vous dites. Avec le vin, c'est la surabondance, le jour de fête. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le pain, le symbolisme du pain et du vin. Le nécessaire, la nourriture nécessaire, la nourriture de surabondance. L'amour à l'égard de Dieu, l'aspect nécessaire, la charité fraternelle, la surabondance. Et quand vous regardez ce passage de l'Apocalypse, le premier rang, c'est évidemment Jésus. Un fils d'homme ayant sur la tête une couronne d'or et de la main une faucille aiguisée, c'est Jésus. Puis un autre ange sortit du temple et cria, jette ta faucille à moissonne. Quel est l'envoyé de Dieu qui est capable de donner un ordre à Jésus pour lui dire, jette ta faucille? Donc, vite, théologiquement, se poser la question. C'est ça, c'est la théologie. Poser des questions pour mieux comprendre l'écriture. Quel envoyé est capable de donner un ordre à Jésus? Eh bien, si vous réfléchissez, non, le Père n'est pas envoyé. Donc, c'est pas le Père. C'est un envoyé, ange. Si vous réfléchissez, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Marie et Marie-Reine. Il n'y a que la reine qui peut impérer demander quelque chose au roi. C'est un commandement un peu spécial. Il n'y a qu'elle. Une créature en dehors de Marie ne peut pas donner un ordre à Jésus, c'est pas possible. Donc il faut comprendre que le roi peut recevoir de la reine comme envoyé ce commandement, jette ta faucille et moissonne. Et ça c'est impressionnant, ça veut dire que le Père a voulu que le moment de le retour de Jésus, eh bien Marie intervienne pour dire à Jésus, c'est le moment, reviens. Et la moisson de la terre est mûre, je dis littéralement, c'est dans l'exégèse, c'est la moisson, les grains sont déjà un peu trop mûrs. Et c'est comme un petit peu trop tard. Et alors Jésus obéit. Et Jésus ne peut obéir qu'à la reine. Et je ne peux pas lire une créature, c'est impossible. Et si vous regardez l'autre partie, la vendange, un autre ange, avec, dans l'Apocalypse, on se sert des mêmes personnes, on peut leur donner des symboles différents. Un autre ange sorti du temple, chargé de la vendange, et un autre ange, l'ange préposé au feu, cria, jette ta faucille aiguisée. Donc on sent qu'il y a une inversion. L'ange préposé au feu, ça peut être Jésus. Le feu, c'est symboliquement le mystère de l'Esprit Saint, c'est Jésus qui nous communique le don de l'Esprit Saint à travers le mystère de la croix et la résurrection. Donc ça veut dire que Jésus commande à un envoyé le moment de venger la vie. À qui Jésus peut-il commander de venger la vie? Ça ne peut être que Marie. Donc vous voyez que le retour de Jésus implique une double coopération entre Jésus roi et Marie-Reine. Du côté de l'amour à l'égard de Dieu, nous serons jugés par Jésus. Et vous voyez, c'est Marie qui verra ce moment. Du côté de la charité fraternelle, c'est Jésus qui demandera à Marie de juger. Lors du retour de Jésus, lors de la fin, comme nous serons en face de Jésus, c'est Marie qui, au nom de Jésus, jugera la charité fraternelle. Alors vous allez me dire, c'est une interprétation théologique, hein, c'est pas littéral. L'Apocalypse nous demande une interprétation théologique. Mais si vous trouvez une autre interprétation plus satisfaisante, vous me direz. Or, on est obligé, tout d'un coup, on ne veut pas ça. Hein. On ne peut pas dire, on ne comprend rien, donc on laisse tomber. Malheureusement, c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est assez magnifique de voir que, du côté de l'amour à l'égard du Père, à l'égard de la très sainte Trinité, c'est Jésus qui nous jugera. Et on comprend que ce soit celle qui est mère et reine. Parce que la mère, elle est celle qui est farouche par rapport à l'unité de ses enfants. C'est une mère qui est gardienne de l'amour et l'amour familial. Et là, on comprend que Jésus, conflissant à celle qui a ce sens et qui a vécu si profondément sur la vie fraternelle et qui est la mère, qui est gardienne de l'unité de l'Église famille, lui soit confié ce rôle de venger les grappes, c'est-à-dire de nous juger sur la charité fraternelle. C'est Marie-Reine. Donc, vous voyez, l'Apocalypse nous montre de manière très étonnante cette place de Marie par rapport au moment du retour de Jésus dans la gloire. C'est-à-dire que Marie connaît probablement l'heure du retour. Il dit, nul ne connaît le retour du moment, mais du côté de la créature, Marie connaît probablement ce retour. Et si elle était proclamée reine, c'est parce qu'il lui est confié une grâce d'autorité de gouvernement. La mère n'est pas du côté du gouvernement, mais la reine est du côté du gouvernement. Et donc c'est très beau parce que cette place dans l'Église récente de Marie-Reine semble montrer que Dieu a voulu que le gouvernement de l'Église soit de plus en plus confié à Marie. Elle exerce son autorité de gouvernement sur l'Église et sur les hommes. Et elle a une place très spéciale, je vous disais, par rapport au retour de Jésus dans la gloire. Et c'est par surabondance que Jésus lui a très probablement fait connaître le moment. Et c'est parce qu'il lui a communiqué le secret du moment du retour de la gloire qu'elle a ce secret de reine. Et la reine connaît une confidence par rapport au roi. Et le secret de Marie comme reine, c'est qu'elle sait le moment du retour. Vous voyez, conséquence, mais on a le droit de théologiquement se poser la question, mais pourquoi y a-t-il toutes ces apparitions de la Vierge Marie depuis plusieurs siècles, et surtout plus récemment, je parle des apparitions reconnues par l'Église. Est-ce que c'est pas Marie qui alerte ses enfants pour qu'ils comprennent que c'est sûr, chaque jour, l'Église s'approche du retour. Et que ses enfants soient plus vigilants pour comprendre que ce retour est peut-être plus proche qu'il ne croit. Et c'est très beau de voir que Marie porte ces deux secrets, le secret comme mère et le secret comme reine. Le premier secret de Marie nourrit sa foi. Et j'allais dire que le deuxième secret nourrit son espérance. L'avant, c'est le temps de l'espérance. Et nous avons, nous, auprès de Marie, à découvrir cette dimension de l'espérance qu'on appelle l'espérance eschatologique, c'est-à-dire qui vit du retour de Jésus. Même si nous ne sommes, si nous ne serons pas témoins de ce retour, le fait d'avoir vécu dans l'espérance est quelque chose de vrai. Et cette attente dans l'espérance de l'Église hâte le retour. N'oubliez pas la place de Marie par rapport au mystère de la résurrection. Vous savez, dans l'Écriture, il dit qu'il te ressuscitera le troisième jour. Enfin, c'est trois jours un peu particuliers. Hein. Le vendredi soir, le samedi, et le dimanche, peut-être quelques minutes, après le début de la journée de la nuit. On ne sait pas. Enfin, vous voyez, c'est quand même, c'est un peu trois jours un peu spéciaux quand même. Hein. On est plus proche d'un jour et demi que trois jours. L'Écriture dit trois jours. Est-ce que ce n'est pas pour nous montrer que Marie, par son désir de la résurrection, a hâté, accéléré la résurrection de Jésus? Je crois que ce qu'on peut dire profondément. Et est-ce qu'il n'y a pas la même chose par rapport au mystère de l'espérance dans l'Église? C'est que les chrétiens vivant de l'espérance eschatologique, attendant le retour de Jésus, hâte ce retour. Et je crois que c'est très important à voir parce que c'est vrai, quand on voit ce qu'on vit aujourd'hui, on ne peut pas ne pas désirer que Jésus revienne. Quand on voit les choses si terribles que l'humanité vit, on dit, mais combien de temps ça va durer? Et surtout, on me dit, mais que Jésus revienne vite parce que l'humanité dégringole si vite et si profondément. Et Jésus le dit, hein, si les jours n'avaient pas été abrégés, même les justes seraient tombés. Donc on sera donné. Et donc je crois que c'est très important qu'on comprenne que l'avant que nous vivons, nous cette année, est à la fois un avant qui doit nous faire vivre de l'âme, du premier avant de Marie comme mère, et qui doit nous faire vivre de l'avant de l'Église qui attend le retour de Jésus dans la gloire. Alors c'est sûr que l'épreuve pour nous, c'est que nous ne savons pas quand il reviendra. Mais le fait que nous ne sachions pas, ça maintient en nous une espérance très pure. Parce que si nous savions la date, qu'est-ce qu'on ferait? On dormirait jusqu'à la veille du retour. Et la veille du retour, on irait se confesser, on irait se convertir, puis on dirait, Seigneur, c'est bon, j'arrive. Là, tu peux arriver, c'est bon. C'est pourquoi on n'attendrait pas du tout. Oui. Et donc, le fait qu'on ne sache pas, ça maintient une espérance très pure. Et cette attente de l'Église, c'est sûr, elle est toute différente de l'attente de Marie du premier avant. Puisque la première attente de Marie dans l'avant est une attente toute paisible, toute aimante, toute silencieuse, tandis que celle de l'Église, elle est en plein doute. Mais elle a quelque chose à voir, est en parallèle avec la première attente de Marie. Et Jésus dit, il y aura des signes qui annonceront la proximité de ce retour. Pourquoi? Les signes, ce n'est pas pour la foi. Les signes, c'est pour l'intelligence. C'est aussi pour le petit incroyant qui est dans nous. Et si, c'est pour que on soit alerté. Jésus ne veut pas revenir par surprise. Pour la plupart des hommes, il reviendra par surprise comme voleur. Et Jésus ne veut pas revenir par surprise. Il veut qu'il soit attendu et désiré. C'est pour ça qu'il est signe. C'est pour que l'Église, qu'elle se rapproche de son retour, soit attentive et désireuse de recevoir Jésus avec le plus grand amour. Et c'est pour ça qu'elle est signe. Si vous prenez les signes, alors c'est sûr, c'est une question théologique qui n'est pas rien. Hein. Parce que quels sont ces signes? Et il ne faut pas trop vite se réfugier dans les révélations privées. Mais Jésus le dit, hein, dans l'Évangile, on vous dit il est là, n'y allez pas, etc. Donc je crois important que c'est pas ça, ce sont des signes divins qu'on cherche. Et donc qui sont liés avec le point de vue de la révélation. Et Jésus le dit lui-même hein, dans l'Évangile, il y aura des guerres, des soulèvements, etc. Mais ce ne sera pas tout de suite le signe de la fin. Donc j'allais dire, la guerre n'est pas le signe, il y a toujours des guerres, de la fin. Par contre, vous avez un passage étonnant dans l'Apocalypse qui est sur les sceaux. De sceller, hein, les sceaux. Alors, j'ai pas le temps de voir, on l'a vu ici pendant 2 ans, on a travaillé la plus. Les 7 sauts, ce qu'indiquent les 7 grandes déterminations du gouvernement de Dieu sur l'Église. Et quand vous regardez l'avant-dernier saut, le 7e saut, de cette manière, c'est l'entrée dans la gloire. Donc c'est l'Église au moment où, face à Jésus glorieux, elle entrera dans la gloire. C'est pour ça que ce 7e saut, il est dit, il se fit un silence dans le ciel environ une demi-heure. Mais ça, c'est bref. C'est le silence. Oui, le ciel, c'est le silence. Et donc, c'est l'Église qui entre dans la gloire. Et donc, si vous regardez le 6e saut, qui est juste avant, ma vision se poursuivit dans ce chapitre 6, verset 12 de l'Apocalypse. Lorsqu'il ouvrit le 6e saut, alors il se fit un violent tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme une étoffe de crin. Et la lune devint tout entière comme du sang. Et les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête. Et le ciel disparut comme un livre qu'on roule. Vous voyez, il faut essayer de comprendre les symbolismes de l'Écriture. Un violent tremblement de terre, le tremblement de terre, c'est ce qui supprime la stabilité. Et vous avez un tremblement de terre, puis ma famille qui a connu ça au Japon, était dans son lit, tremblement de terre, vous voyez, vous faites... impressionnant. Quand il y a des choses extérieures, ça va, il y a plus de la terre. Mais quand il y a la terre, vous n'avez plus qu'un appui. Tout s'effondre. Oui, plus aucun signe. Donc ça veut dire que c'est un moment où l'Église connaîtra un moment où tous les appuis fondamentaux disparaîtront. Le soleil, c'est la présence symboliquement dans l'Écriture, c'est la présence de Jésus. Le soleil devint noir comme une étoffe de crin. Une humanité dans laquelle la présence de Jésus sera comme voilée, et voilée par les hommes. Il disparaîtra. Il est en plein dedans. Et la lune devint tout entière comme du sang. La lune, c'est symboliquement le mystère de... C'est le mystère de Marie. La lune, c'est aussi le mystère de la femme et la femme. La lune devint tout entière comme du sang. La lune, c'est sous une sorte de paix. Et vous voyez que c'est transformé en aspect de violence. Et... tout ce qui est lié avec la fécondité, il y a la femme, il y a la lune, vous voyez que ça devient du sang. Et donc, toutes les transformations de l'humanité qui, au fond, veut s'emparer de la vie dans son point de départ. Les astres du ciel, dans l'Apocalypse, ce sont les théologiens. Les astres du ciel s'abattirent sur la terre, c'est-à-dire que c'est une époque où les théologiens qui devraient éclairer tombent dans le relativisme pur. Et n'éclaire plus l'humanité pour lui faire comprendre ce qu'elle vit. On est plein dedans. Comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête, c'est-à-dire que ce sera au milieu d'un cataclysme. Quand vous regardez ce qui s'est passé après le Concile Vatican II, font de théologiens et de prêtres qui sont partis, qui ont tout quitté, c'est exactement ça, un cataclysme. Et le ciel disparu, comme un livre qu'on roule, le ciel c'est symboliquement la contemplation. Une humanité où l'aspect de la contemplation aura quasiment disparu. Et les monts et les îles, vous voyez, ça c'est l'aspect de la stabilité, les monts et les îles s'arrachèrent de leur place. Tout ce qui était des fondements qui donnaient une stabilité, tout ça est remis en question. Et il ne reste plus que stabilité. On est en plein dedans, si vous ouvrez les yeux. Quand on voit aujourd'hui ce qui est attaqué par rapport à la procréation, par rapport à etc., on voit que les choses les plus fondamentales sont attaquées. Et les rois de la terre, et les hauts personnages, et les grands capitaines, et les gens enrichis, et les gens influents, et tous enfin esclaves ou libres, ils allèrent se terrer dans les cavernes, en disant aux montagnes, croulez sur nous, cachez-nous loin de celui qui siège sur le trône, et loin de la colère de l'agneau. L'angoisse généralisée. Alors si vous regardez le monde d'aujourd'hui, l'angoisse est une maladie récente. Il n'y avait pas l'angoisse, je me souviens d'avoir... on parlait avec une supérieure de communauté de religieuse. Elle me disait, oui, mon père, l'angoisse, ça veut dire la peur. Je dis, quand on bouge tout, l'angoisse, c'est pas la peur. La peur, elle a un objet. La peur du chien qui vous a mordu. Vous avez peur de telle personne qui vous a fait du mal. Elle a un objet. Et je dis, vous êtes une génération qui ne sait pas ce que c'est que l'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est beaucoup plus récente. Demandez à un jeune ce que c'est que l'angoisse. C'est du sable mouvant qui fait qu'intérieurement, il n'y a plus de stabilité. On ne sait pas pourquoi on est angoissé. C'est-à-dire, si je suis à un microscope spirituel, et que je regardais, parce que nous sommes dans ce monde aujourd'hui, et je regardais votre cœur, il y a un fond d'angoisse pour tout le monde. Plus ou moins spirituellement déplacé. Et c'est le monde aujourd'hui. Le monde aujourd'hui, si vous regardez les espérances humaines, il n'y en a plus. Il n'y en a plus aucune. Et ça fait, comme les choses fondamentales, stables, ont été bouleversées, ça fait que il y a cette angoisse généralisée. Et très intéressant, premier signe du terme, parce que vous voyez, c'est juste la colère de l'avion qui revient, c'est l'angoisse généralisée. C'est récent, on est en plein dedans. J'ai essayé de voir d'autres signes. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, il faut découvrir à partir de là ce que l'Écriture veut nous rendre pour nous rendre plus lucides. Et les signes, c'est vrai, on les comprend vraiment quand on est dans la réalité. Hein. Parce qu'avant, on présuppose, tant que la réalité est là, à ce moment-là, les signes, on les comprend. Avant, il y a quand même plus affectif qui fait que finalement, il n'y a pas la même certitude. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une lumière divine spéciale pour comprendre ces signes. Et ce que Marie a vécu au terme de l'Avent, c'est ce que l'Église doit vivre quand elle s'approche du terme. Et c'est pour ça que je vous disais que ce passage de l'Apocalypse sur Marie-Reine est absolument capital, parce que elle doit aussi, parce que quand vous regardez le début de l'Apocalypse, l'Apocalypse, c'est Jean ne voulait pas écrire l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le premier écrit. Jean ne voulait pas écrire. Vous savez, quand vous avez aimé quelqu'un très profondément et que cette personne disparaît, vous n'avez aucune envie d'écrire sur elle. Parce que vous avez des secrets et puis ça ne se dit pas, les secrets. Mais Jean a reçu un ordre. Quand il était dans la grotte, vous voyez, il lui a été dit, écris-le, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Donc Jésus a ordonné à Jean d'écrire l'Apocalypse. Lui, il ne voulait pas. Et pour ça, il lui dit, Dieu lui donna cette révélation, donc à Jean, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Alors, le bientôt, c'est le bientôt de Dieu, hein, qui n'est pas le bientôt des hommes. Hein. Rappelez-vous, sur Lucie, sur Fatima, quand la Vierge Marie, tu viendras auprès de moi bientôt. Elle avait, je crois, 15 ou 21, elle est morte, quoi, elle avait 90 ans. Donc quand la Vierge Marie dit bientôt, le bientôt de Dieu n'est pas le bientôt des hommes. Hein. Donc, il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. Qui est cet ange envoyé par Jésus pour faire connaître à Jean, pour éclairer Jean sur cette révélation de Jésus? Ça s'appelle que Marie. Ça s'appelle que Marie, reine des prophètes. Et donc l'Apocalypse est une lumière qui nous est donnée à travers la médiation de Marie sur Jean. C'est pour ça qu'on a besoin de Marie pour creuser l'Apocalypse. Et c'est dans la lumière de Marie que l'Apocalypse doit être lue. Et l'Apocalypse, c'est le livre des signes divins, donc des symboles. Alors c'est sûr, c'est un livre pas facile, c'est pour ça qu'on ne le lit pas, malheureusement. Alors qu'il est dit au début, heureux ceux qui lisent ce livre. Hein. Et donc ça veut dire que si on lisait plus l'Apocalypse, on aurait une béatitude plus grande. Donc, je ne sais pas parce qu'on ne comprend rien. Et si on se faisait aider, peut-être qu'on comprendrait un peu plus. Mais en tout cas, il faut chercher. Et donc, c'est dans le prolongement de l'Apocalypse qu'on doit comprendre ce qui doit arriver bientôt. Et quand on regarde le retour, vous voyez, parce que le premier avant, il est éclairé par Marie, il est éclairé aussi par Jean-Baptiste. Les évangiles qu'on va voir ce dimanche, Jean-Baptiste nous dit quelque chose sur le premier avant, mais Jean-Baptiste nous dit aussi ce que l'Église va vivre. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans l'économie divine, donc la manière dont Dieu conduit l'humanité, le point de départ, l'alpha et l'oméga sont toujours liés. Donc on retrouve au terme ce qui est au point de départ. Et donc Jean-Baptiste va venir éclairer le mystère de l'Église vivant la proximité du retour de Jésus, c'est-à-dire que quand on regarde le retour, on est un peu des Jean-Baptiste dans le désert. Quand vous dites aux gens, vous savez, préparez-vous, le Christ va peut-être revenir bientôt, les gens vont prendre des fous. Vous savez, peut-être au moins réfléchir. Et donc, quand on dit Jean-Baptiste est dans le désert, c'est-à-dire que Jean-Baptiste a une pauvreté qui fait que ceux qui sont trop riches de leur connaissance, de leur certitude, d'eux-mêmes, ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Jean-Baptiste, quand il dit « Préparez-vous », Jean-Baptiste a été envoyé juste avant pour préparer au retour de Jésus. Et donc l'Église, pour préparer au retour de Jésus, doit vivre la grâce de Jean-Baptiste. Donc une grâce de pauvreté. Alors Jean-Baptiste, c'est plus extérieur, même si c'est une très grande pauvreté intérieure. Poil de chameau et du miel sauvage. Il ne nous a pas demandé de nous vertir comme ça, heureusement. Mais on doit vivre de manière simple, plus intérieure. Donc l'Église, comme Jean-Baptiste, juste avant le retour de Jésus, l'Église, juste avant le retour de Jésus en gloire, doit connaître une très grande pauvreté. Regardez l'état de l'Église aujourd'hui, c'est une pauvreté cadavérique. Au sens du cadavérique, au sens du cadavre divin de Jésus, donc avant sa résurrection. Donc extérieurement cadavérique. Et il nous est demandé, vous voyez, par rapport à ça, d'avoir cet esprit d'Élie, ce que rappelle Jésus, Élie, celui, et l'aspect des deux témoins, qu'on a vu quand on a regardé l'Apocalypse, je n'ai pas beaucoup de temps, mais si on peut l'évoquer, c'est de voir que quand il a annoncé la trompette, c'est l'exécution, les trompettes, et juste avant la dernière trompette, la septième, qui annonce le dernier malheur, vous savez, les deux témoins. Je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Si on s'avisait des malmenés, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait des malmenés, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux de les changer en sang et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Quand ils auront fini leur témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur fut crucifié, leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent. Ils échangent des présents car ces deux prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais passés les 3 jours et demi, Dieu leur insuffla un souffle de vie qui les remit sur pied au grand effroi de ceux qui les regardaient. J'entendis là une voix puissante leur cri du ciel monter ici. Ils montèrent donc au ciel dans la nuit aux yeux de leurs ennemis. Le témoin, vous voyez, les deux témoins, ils sont indiqués comme, juste avant la dernière exécution, la deuxième trompette, un secours de Dieu. Et ils sont symbolisés par le pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe. Ça, c'est, vous l'avez souligné, et aussi pouvoir sur les eaux de changer en sang. Pouvoir de clore le ciel, c'est Élie. Dans l'Ancien Testament, c'est Élie qui a demandé qu'il ne pleuve pas. Et pouvoir de changer les eaux en sang, c'est Moïse. Donc ces deux témoins, c'est dans l'Église, le nouveau Moïse et la nouvelle Élie. Quel est le nouveau Moïse dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament? Moïse, c'est le législateur. Quel est le nouveau législateur dans la nouvelle alliance? C'est Jésus instituant l'Eucharistie. Quand Jésus institue l'Eucharistie, il fait un acte de législateur. Faites cela en mémoire de moi. Et le nouvel Élie, c'est Marie. Parce que le Carmel montre bien le lien entre Marie et Élie. Donc, les deux secours, juste avant le terme, c'est le mystère de l'Eucharistie et le mystère de Marie. Et vous ne pouvez pas nier qu'ils ont connu une attaque du démon qui fait que pendant des dizaines d'années, le siècle dernier, l'Eucharistie et le mystère de Marie ont complètement mis de côté. Et que depuis Jean-Paul II, il y a un renouveau du mystère de l'Eucharistie, avec l'adoration eucharistique, les processions eucharistiques, c'est Jean-Paul II qui ramène ça, et le renouveau du mystère de Marie, la dévotion mariale et l'amour de Marie. Donc, le mystère de Marie dans l'Église, faisons attention, le témoin c'est celui qui vit du mystère. Donc plus précisément, le premier témoin, c'est l'Église vivant du nouveau Moïse. L'Église vit en Marie. Le témoin, c'est celui qui vise. Et donc, le renouveau de l'Église, juste avant le terme, se fait dans la mesure où l'Église vit du mystère de l'Eucharistie et l'Église vivant du mystère de Marie. Or, le cas étonnant, c'est que quand vous regardez les dernières lettres apostoliques ou encycliques du pape Jean-Paul II, il a intitulé Ecclesia de l'Eucharistie, l'Église vivant de l'Eucharistie. C'est pas le hasard. Et l'Église vivant de Marie. Et vous ne pouvez pas nier qu'aujourd'hui, la vitalité de l'Église, elle est là où on adore l'Eucharistie, on vit profondément l'Eucharistie et l'envie de Sainte-Marie. Et seul qui permet d'être fidèle. Et donc, ce qui est important, c'est que Dieu nous demande de nous servir de ces deux témoins, donc de vivre ces deux mystères pour pouvoir être fidèles, parce que les luttes au terme sont maximales. Si on regarde, donc je vous ai dit, un des signes que montre l'Apocalypse, puisqu'on doit toujours qu'on dessine à partir de révélation, et non pas à partir de révélation privée. La révélation privée n'implique pas la foi. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, mon père, j'ai passé une semaine sainte, merveilleuse. Ah, bien, pourquoi? Parce que j'ai lu telle des révélations privées pendant toute la semaine sainte. Ah, j'étais vraiment dans une profonde intimité. Et si vous avez lu l'évangile, ah non, j'ai vu cette révélation, il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus intéressant. Elle dit, c'est dommage parce que votre foi n'a pas grandi durant toute la semaine sainte. Parce que la foi grandit au contact de la parole de Dieu, pas les révélations privées. Pas les révélations privées. Donc les révélations privées, si elles vous aident à retourner à l'écriture, à aller plus profondément à l'écriture, d'accord, elles vous aident. Une béquille, quoi. Mais ne restez pas avec ces révélations privées. Elles ne nourrissent pas votre foi. Et vous dites très embêtant, votre foi n'a pas grandi pendant 8 jours. En plus, c'est un truc simple. C'est un peu mal à dire, mais c'est la vérité. Et donc, les signes, il ne faut pas les prendre dans les raisons de Dieu, il faut les prendre dans l'écriture. Je vous dis, quand on regarde l'Apocalypse, c'est un langage généralisé, 6e saut. Et puis, quand on regarde la Genèse, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, on voit, surtout le prologue de Genèse et pardon, le prologue de Saint Jean, on voit que ce qui caractérise les luttes apocalyptiques, c'est quand les grandes alliances avec Dieu sont remises en question ou sont attaquées. Quelles sont les grandes alliances avec Dieu? L'alliance fondamentale de Dieu avec l'homme, il est dans la procréation. Puisque Dieu est créateur de l'âme. Les parents sont sauveurs du corps, mais pas de l'âme. Et donc la procréation humaine, c'est la coopération de Dieu qui crée l'âme humaine. Les parents qui sont sauvés du corps, une œuvre commune merveilleuse. Eh bien, quand cette alliance fondamentale est attaquée, vous savez que c'est un tremblement apocalyptique. Nous sommes en plein dedans. Toutes les attaques actuelles par rapport à la procréation, avec la PMA, toutes les choses avec la JPA. Et le pape François a dit récemment, ah, j'ai une très belle lumière du pape Benoît XVI qui revient en parlant justement de toutes ces grandes attaques aujourd'hui par rapport à la fécondité humaine, la procréation, etc. Il dit, c'est un péché contre le Créateur. Et c'est pas seulement un péché contre le Père, mais très simplement un péché contre le Créateur. C'est très beau, parce que vous voyez, c'est une attaque contre l'alliance fondamentale. La création, c'est cette alliance fondamentale de Dieu avec l'homme. Quand l'homme s'attaque à ça, il touche à quelque chose qui est tellement radical que ça va être un mouvement apocalyptique. Or l'homme doit accepter qu'il n'est pas maître de la procréation. Et l'homme doit être maître du point de départ de la vie et il veut être maître du terme de la vie. La procréation, l'euthanasie. Et donc, l'homme veut être maître de ça. Et donc on voit bien que c'est une attaque. Quand vous la regardez dans la lumière de la foi et la révélation, c'est une attaque contre l'alliance fondamentale, la plus radicale de Dieu avec l'homme. C'est à cause de cette alliance, d'ailleurs, que, vous voyez, la procréation humaine n'est pas comme la procréation des animaux. Pour les animaux, il n'y a pas d'intervention de Dieu pour chaque animal qui conçut. Tandis que pour nous, il y a un acte propre, personnel, individuel, singulier, de Dieu pour chaque création. Donc chacun est aimé de l'amour unique. C'est pas dans la série. Les animaux, c'est dans la série. C'est l'intervenu point de départ, puis après ça se multiplie. C'est pour ça que la vache n'est pas sacrée. Les bouddhistes disent que la vache n'est pas sacrée. Tandis que la réalité humaine, elle est sacrée. Sacrée, c'est-à-dire tournée, liée à Dieu. Et là, c'est très important de voir que cette alliance fondamentale, elle est aujourd'hui attaquée par le démon à travers les hommes qui sont entre ses mains, d'une manière comme elle n'a jamais été avant. On ne peut pas nier que ça n'a jamais été comme ça avant. Et que l'orgueil de l'homme fait qu'il ne s'en remet et que le démon fait tout pour s'en emparer. L'autre signe correspond à une autre alliance qui est représentée dans le prologue de Saint Jean. Une alliance ultime, au point de vue naturel, c'est l'alliance de Dieu avec l'intelligence. Notre intelligence, elle est liée à Dieu, et elle est faite pour retourner vers Dieu, et elle est faite pour découvrir l'existence de Dieu. Vous voyez, la découverte de l'existence de Dieu, elle nous a donné immédiatement dans la foi, l'intelligence est capable de découvrir. Et quand les hommes se servent de leur intelligence pour dire « Dieu n'existe pas », l'athéisme généralisé, c'est l'intelligence qui se retourne contre son créateur et contre celui qui a fait alliance avec l'intelligence. Mais notre intelligence est liée avec Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi notre intelligence. D'abord, on peut la donner qu'à Dieu. On ne peut pas donner votre intelligence à une créature, c'est possible. Et vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi votre intelligence. Parce qu'aujourd'hui, on oublie. Donc ça, notre intelligence, c'est un jour du jeune, très bien. Mais d'abord, l'intelligence, elle est faite pour chercher Dieu. On devrait se servir de notre intelligence beaucoup plus pour creuser la parole de Dieu. On devrait chercher notre intelligence beaucoup plus pour comprendre quel est le gouvernement de Dieu sur l'Église, pour comprendre les signes des temps aujourd'hui. On devrait s'en servir, je ne sais pas, on est paresseux. Il y a une paresse physique, une paresse intellectuelle, devant chacun de nous, devant l'autre, hein. On devrait être beaucoup plus, notre intelligence est faite pour ça. Notre intelligence n'est pas premièrement faite pour les choses de la terre. Et si je le corrige, vous voyez un nuage. Vous voyez un nuage qui arrive, vous annoncez qu'il va y avoir la pluie, et vous êtes incapable de saisir les signes des temps. Vous êtes de très intelligent pour comprendre qu'en regardant les nuages, vous comprenez qu'il va y avoir l'orage, mais vous êtes incapable de saisir votre intelligence pour comprendre les signes des temps avec ma présence. Esprit faux. Correction un peu forte. Hein. Esprit faux. Et donc je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, vous voyez, cette attaque par rapport à l'alliance fondamentale de la précréation. L'alliance de Dieu avec l'intelligence, c'est l'intelligence qui proclame l'athéisme de Dieu. L'athéisme, c'est récent, hein. C'est pas vieux. Quand l'homme arrive à dire que Dieu n'existe pas avec son intelligence, pervertie, et l'angoisse généralisée, je crois que c'est les trois grands signes de l'Église à la proximité du retour de Jésus. Et vous voyez, l'Église, le Concile Vatican II, nous a demandé de reprendre une théologie de l'économie divine, c'est-à-dire. Elle a enseigné aux croyants le devoir de comprendre les signes des temps. Autrement dit, où en sommes-nous dans le périnage de l'Église? C'est ça que le Concile a demandé. Où en sommes-nous dans le périnage de l'Église? Pourquoi? Parce que vous comprenez que l'Église connaît des étapes différentes. Et que, à travers chaque étape différente, vous avez des exigences de Dieu différentes. Or, les étapes de l'Église, dans son pèlerinage terrestre, elles sont toutes relatives aux étapes de la vie apostolique de Jésus. Or, dans la vie apostolique de Jésus, vous avez trois étapes. Le moment de la floraison, un développement apostolique, au début de sa vie apostolique, jusqu'au chapitre, et c'est Saint Jean qui nous les montre, jusqu'au chapitre 6 de Saint Jean. Au moment du chapitre 6, les discours du pain de vie, la multiplication des pains, il y avait 5000 hommes, et l'Écriture dit sans les femmes, sans les enfants. Dans les pèlerinages, vous avez deux fois plus de femmes que d'hommes, toujours, et vous avez trois fois plus d'enfants que d'hommes. Donc si vous comptez, 5000, ça fait 30 000 personnes. Au moment du discours du pain de vie, il y avait 30 000 personnes autour de Jésus. Vous voyez, il y a une première étape dans la vie de Jésus de floraison, de fécondité, développement. À partir du chapitre 7, les grands luttes, les divisions. Jusqu'au chapitre 12. Chapitre 12, les dernières semaines. Vous ne pouvez pas nier que l'Église, hein, que lui, c'est trois grands étapes, qui à la fois sont toujours contemporaines à chaque moment du pèlerinage de l'Église, et qui en temps sont plus ou moins présentes, suivant. L'Église a connu toute une floraison, à partir des actes des apôtres, et Pierre prêchait, les disciples prêchaient, il y a 3000 personnes qui convertissaient d'un coup. On est bien que ça se passe comme ça. Une église, 3000 personnes qui convertissent. Donc il y a eu maintenant une floraison, le début d'après la résurrection, avec les apôtres, une floraison quand même. Et puis, vous voyez, séparation dans une siècle, séparation de nos frères orthodoxes, puis après nos frères protestants, les grandes luttes, les grandes divisions. Donc il y a eu comme un premier millénaire de grand développement, puis après les divisions, les luttes. Et toute la question, c'est quand est-ce que l'Église est entrée dans sa dernière semaine. Et notre fondateur, Père Philippe, a beaucoup, beaucoup fait ça. Il se posait une question, c'est une question, que j'aime poser des questions. Est-ce que le Concile Vatican II n'indique-t-il pas l'entrée de l'Église dans sa dernière semaine, qui durera le temps que Dieu voudra? Pourquoi? Quand on regarde l'Évangile, jusqu'à la dernière semaine, Jésus condamne. Il rectifie le monde. Dans la dernière semaine, Jésus ne condamne plus. Le Concile Vatican II est le seul concile où il n'y a aucun anathème. Tous les conciles, il y a celui qui dit ça, qu'il soit anathème, c'était rejeté de la communauté de l'Église. Celui qui dit ça, qu'il soit anathème. Celui qui dit ça, qu'il soit anathème. Concile Vatican II, aucune condamnation. Est-ce que c'est pas le signe d'une nouvelle étape pour l'Église, qui pour l'Église vit sa dernière semaine? Il y a d'autres signes qui sont nous montrés. C'est que dans la dernière semaine, vous avez des choses particulières de Jésus. Vous avez l'onction de Béthanie, donc la miséricorde de Jésus. Tiens, on vient du jubilé de la miséricorde. C'est pas bizarre. Hein. Et le Saint-Père a fait comprendre qu'il a fait un nouvel texte que je vous conseille de lire, pour être préparé à Internet facilement, qui s'appelle Miséricorde et misère. C'est splendide, où il montre le prolongement de l'année jubilée. Et c'est là où il accorde aux prêtres des facultés nouvelles, il accorde la validité et la licéité aux intégristes de leur confession, enfin, il y a une miséricorde, il parle dans une miséricorde extrêmement loin. On est en plein dans le temps de miséricorde. Et je vous rappelle, c'est pas froid, hein, ce que Jésus dit à Saint-Faustine. Hein. Avant mon retour, ce sera le temps de la miséricorde, avant le temps de la justice, la miséricorde sera la justice de retour. Il y a la miséricorde, la justice. Avant, ce sera le temps de la miséricorde. On est en plein dedans. La dernière semaine, c'est la trahison du temps. Et c'est aussi, dans un temps de temps, mais c'est le reniement de Pierre. À quoi ça correspond aujourd'hui? Parce que est-ce que c'est la question de ceux qui ont une autorité dans l'Église qui n'acceptent plus l'autorité de Pierre? Grosse question. La dernière semaine, c'est l'institution de l'Eucharistie. Or, vous ne pouvez pas nier que depuis le Concile, il y a quand même, surtout avec l'Église avec le Père Jean-Paul après, une place particulière que prend l'Eucharistie. La dernière semaine, c'est le don de Marie-Jean. Il a encore la place de Marie-Jean dans l'Église. La dernière semaine, c'est le cadavre de Jésus qui attend la résurrection. Et c'est-à-dire, c'est comme des apparences qui sont comme complètement abîmées, défaites. Et vous voyez que l'Église, que je vous disais, quand on regarde aujourd'hui, dans une pauvreté qui est l'analogue de la pauvreté catholique. Même si intérieurement il devient un mystère, parce que le cadavre, c'est un cadavre qui attend la résurrection, et qui ne se corrompt pas, parce qu'il est divin. Donc vous voyez, si on réfléchit, je suis obligé d'aller très très vite malheureusement parce qu'on n'a pas de temps, mais si on réfléchit, je crois qu'on ne peut pas nier que l'Église vit une étape ultime, qui est la dernière semaine de l'Église, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, cette étape durera le temps que Dieu voudra. Mais on doit quand même comprendre que si on vit cette étape ultime, il y a des priorités que Dieu demande à l'Église qui ne demandait pas à l'Église au Moyen-Âge. C'est évident. La dernière étape, la dernière semaine, Jésus a fait des choses, il a demandé des choses qu'il n'a pas demandé avant. L'Église, il ne s'agit pas d'être nostalgique de l'Église du Moyen-Âge. Ah, c'était mieux comme avant. Très bien, mais c'est pas ce que tu veux dans l'Église aujourd'hui. Mais je prends l'exemple. Les œuvres sociales, les hôpitaux, genre. Il y a une époque où tu as demandé ta congrégation qui sont développées pour faire des œuvres d'éducation, des filles, des garçons, des autres hôpitaux. Est-ce que c'est ce que Dieu demande à l'Église aujourd'hui? Je crois pas. Comme priorité, l'Église va assumer ce cas-là. Est-ce que c'est la priorité? Sûrement pas. Et je crois que l'onction de Béthanie montre que c'est la surabondance de l'amour et la gratuité de l'amour. Je crois que Dieu demande beaucoup plus à l'Église une gratuité de l'amour aujourd'hui et une surabondance de la miséricorde. Donc vous voyez, je crois que c'est important de comprendre ce que l'on vit et l'Apocalypse de donner, de comprendre le rôle primordial de Marie dans le retour du Christ. Et c'est intéressant, c'est quand vous regardez, le démon fait toujours des caricatures. Il prend les symbolismes de l'Apocalypse et il les retourne. Or, quand vous regardez l'Écriture, vous voyez bien que vous voyez, vous avez le petit livre de l'Apocalypse. Il y a d'autres qui ont fait des petits livres. Hein. Mao, par exemple. Hein. Le petit livre rouge, par exemple. Il est dit à l'Écriture que l'Apocalypse est un marteau. Et vous avez vu, pour la vendange, c'est la faucille. Tiens, marteau et faucille, ça a été récupéré dans un certain drapeau, hein, une certaine idéologie. C'est pas le hasard, hein. Vous voulez Dieu. La caricature du démon. C'est intéressant, il a pris le marteau et la faucille. Et la faucille, c'est Dieu autour de Jésus. Le démon ne sait pas quand est-ce que Jésus revient. Il connaît quelques signes, pas quoi, qui font comprendre la proximité, mais il ne sait pas. Il y a des caricatures. C'est intéressant, hein. Le démon fait des caricatures. Alors, ne prenez ça que comme des petits indices. Ne prenez pas ça comme un objet de foi. Hein. Mais c'est bon d'être un peu lucide, quand même. Et donc, vous voyez, je crois que c'est très important de comprendre que nous vivons un temps très particulier, un temps merveilleux. Parce que si on est ceux dans ceux qui vivent cette dernière étape ultime, on vit dans la dernière étape ultime une surabondance d'amour et de miséricorde, comme l'Église n'a jamais reçu. Mais dans la plus grande pauvreté. Il faut accepter la pauvreté personnelle. Vous voyez, c'est vrai, quand vous regardez les moines du début de la vie classique, ils étaient capables de dessécher les étangs, je ne sais pas quoi, ils passaient leur vie à essayer de construire des monastères, et ils ne m'auraient pas lu, pourquoi, au fond, on en est incapable. Vous voyez, même la vie consacrée, on a une fragilité qu'on n'avait pas avec les parents. La vie chrétienne, pareil. Quand on a des grands saints, ils sortent des livres, vous voyez, impressionnant, on ne parlait pas d'en faire au centième. Et donc, il faut accepter que nous sommes une génération beaucoup plus fragile, beaucoup plus appauvrie. Mais la petite thérèse nous a été donnée pour nous faire comprendre que dans cette fragilité que Dieu permet, Dieu veut par là nous faire comprendre et nous faire vivre que c'est lui qui va agir et que toute la gloire lui revient. Et que nous sommes que des pauvres instruments et des pauvres qui s'appuient uniquement sur la miséricorde de Dieu. Je crois que c'est capital. Et donc il ne faut pas avoir peur de sa pauvreté, de ses pauvretés, mais il faut s'en servir pour être plus dépendant de Jésus. Et pour être plus dépendant de sa miséricorde, pour accomplir ce qu'il veut que nous réalisions. Alors c'est sûr que oui, la lumière qu'annonçait dit spirituellement la lumière de Noël, c'est la lumière éblouissante, tandis que la lumière de l'Église qui attend le retour, c'est plutôt la lumière du coucher de soleil, oui. Le soleil qui décline, oui, à cause de toutes les luttes et toutes ces lumières divines qui disparaissent parce que les hommes les cachent. Donc humainement, ce sera très drôle, c'est sûr. Mais divinement, c'est-à-dire nous n'avons absolument pas à regretter. Et que ce qui est très important, c'est que si on regarde ça dans la lumière de Marie, on comprend que c'est dans la miséricorde que tout peut être vécu de manière infiniment paisible. Et que une théologie des signes, vous voyez, qui est comprise dans l'amour et la miséricorde, montre qu'on est enveloppé de cette miséricorde de Dieu. C'est pour ça que cette année jubilaire de la miséricorde, que le Saint-Père prolonge de cette manière, oui. Eh bien, c'est un signe des temps. Ça n'a jamais existé en l'Église. Et donc, comprenons que c'est quelque chose qui est quelque chose de très spécial pour nous, qui nous révèle que Dieu donne à l'Église aujourd'hui une miséricorde comme il n'en a jamais donné. La miséricorde de Dieu atteint des choses extrêmes aujourd'hui, comme il ne l'a jamais fait. Parce que dans la pauvreté de l'humanité, Dieu veut la reprendre par sa miséricorde. C'est vrai, un disciple, je termine par là, vous savez, pendant l'année jubilaire, le pape, par exemple, Une fois par mois, le vendredi, je crois qu'il allait faire un acte de miséricorde. Donc, il était visité des prisonniers, il était visité des prostituées. Et le dernier vendredi, qu'est-ce qu'il a été voir? Il a été voir des familles avec des prêtres qui ont quitté le sacerdoce. Avec leur famille. Des prêtres qui ont quitté le sacerdoce, il a été voir leur famille. Il a été voir cette famille dont les pères de famille sont des anciens prêtres. Il n'est pas venu pour leur dire, c'est pas bien de faire. Il dit, écoutez, il est béni. Je me disais, incroyable, jamais arrivé dans l'église. Un pape fasse ça. Tu te reviens. Regardez Amoris Laetitia. Ce que le Saint-Père dit par rapport à l'attitude de l'église, peut-être nouvelle, par rapport au divorce et au marié, par rapport à l'accès au sacrement. Ça n'a jamais été dit comme ça. Donc je crois qu'il faut qu'on soit lucide, que le Saint-Père nous pousse. On ne comprend pas toujours ce que le Saint-Père veut. Ce qu'il faut, c'est qu'on n'a pas le juger, que nous, on n'a pas la lumière pour le juger. Et comprendre qu'il nous est donné par Dieu, je crois que vraiment, quelqu'un de prophétique, pour pousser l'Église à entrer dans cette miséricorde extrême, à la fois en la recevant de Dieu. Donc notre fragilité et la pauvreté doit nous permettre de recevoir une miséricorde plus grande qu'avant. Et dans la miséricorde que nous communiquons plus. Et ça veut dire, c'est aussi la dernière étape. C'est comme la miséricorde, c'est comme le Saint-Père qui a fêté les 500 ans de Luther. Et en plus, à part la salle Paul VI, il a fait mettre le statut de Luther. Alors, bon, certains qui sont très traditionnalistes ont dit, enfin, un hérétique, enfin, le Saint-Père qui vraiment proclamé les 500 ans de l'hérétique, quoi. Le Saint-Père, il pense que pour fêter les 500 ans de Luther. Et vous, cette miséricorde. Et oui, parce qu'il dit, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Et peut-être que c'est le moment de nous unir. Or, je vous rappelle qu'au terme de l'évangile de Saint-Jean, c'est le chapitre 17, qu'il soit un comme nous sommes un. Donc il y a un désir de l'unité pour le terme uni de Jésus. On comprend que l'Église, depuis le Concile, est ce souci-là. Et le Saint-Père incarne du vrai incroyable. Mais si on ouvre les yeux, on voit qu'on vit l'état petit, qui durera le temps que Dieu voit. Peut-être que le retour de Jésus est plus proche qu'on croit.